Eh bien, aujourd'hui, c'est notre premier culte de notre nouvelle année académique. Comme on peut dire toujours, c'est comme ça qu'on nomme la rentrée. Et je désire vous parler de la prière. Je veux dire, je crois que la prière est quelque chose d'important. Au fond, la prière, c'est le poumon de la vie chrétienne. C'est le moment où nous sommes en ligne directe avec notre Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Et bien sûr, il y a plusieurs façons de prier. On peut réciter des prières apprises par cœur. On peut prier avec larmes, on peut prier avec ferveur. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'on parle de la prière avec foi. Loin de moi de prétendre que je suis le seul qui prie avec foi dans ce lieu, mais je désire nous encourager à ne pas nous relâcher dans la prière. Car je parlais encore cette semaine avec quelqu'un qui me disait sa souffrance de ne pas voir toujours ses prières exaucées. Et je peux vous rassurer, si vos prières ne sont pas toujours exaucées, je suis dans le même cas que vous. Il y a des prières que pour l'instant, le Seigneur ne m'a jamais répondu. Le Seigneur m'a répondu dans des prières. Alors, on a prié pendant des années, puis on se disait même, est-ce que ça sert encore à quelque chose de prier? Puis Dieu répond. Et par ce message, je voudrais nous encourager à faire un pas plus loin dans la foi et dans la prière. Et peut-être trouver le pourquoi que nos prières ne sont pas toujours exaucées. Alors nous allons lire dans l'évangile de Marc. Et pour que nous comprenions bien ce qui se passe, nous sommes au chapitre 11 de Marc. Et nous sommes après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce fut un événement marquant dans la vie des disciples, de voir ainsi leur maître être porté en triomphe à l'image d'un chef d'État. Et l'histoire que nous allons lire se situe après cet événement. Donc l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Au verset 20, le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ici, je fais une petite parenthèse que je n'avais pas mis dans mes notes. Qui m'est venu qu'en relisant mes notes, la fin de ce texte nous parle de pardon. Et parfois aussi peut-être que nos prières ne sont pas, nous n'avons pas de réponse à nos prières. C'est peut-être aussi parce que nous manquons de pardon. Nous devons remettre certaines choses en ordre. Et que si nous ne sommes pas spécialement en ordre avec notre Dieu et avec nos frères et sœurs, il y a peut-être une raison que nos prières ne soient pas exaucées. Le pardon est quelque chose d'important dans notre vie chrétienne, dans nos relations avec les êtres humains, dans nos relations avec nos frères et sœurs, dans nos relations avec nos familles. Et je pense que ce n'est pas anodin si Jésus, en terminant cette réflexion sur la foi, sur la prière de la foi, nous donne aussi une piste parfois en ce qui concerne notre vie de pardon, notre vie de relationnel. avec les autres humains. Je ferme la parenthèse. Jésus a faim et il a envie de figues. Au lieu de se dire, tiens, je vais manger un bon sandwich avec du salami, non, il a envie de figues. Pourquoi des figues? C'est un peu comme la femme enceinte qui, un 15 janvier, qui fait moins 15, dit à son mari, j'ai envie de fraises. Et que le mari est obligé d'aller chercher des fraises. Et quand il revient, il dit, oh, j'en ai plus envie, j'ai mangé un sandwich. Donc, hein? Mais Jésus a envie de figues. Bref, Jésus s'approche de ce figuier et il n'y a pas de figues. Et parce que ce n'est pas la saison des figues. Donc Jésus savait très bien que ce n'était pas la saison des figues. Et bien sûr, nous sommes à une époque où, à ce moment-là, on mangeait légumes et fruits de saison. Ce n'est pas comme maintenant, vous avez envie de figues en plein hiver, ben vous en aurez. Donc, nous sommes hors saison de figues, et Jésus s'approche de ce figuier parce qu'il a faim et il n'y a pas de figues, normal. Et Jésus prononce une malédiction contre le figuier. Plus personne ne pourra manger des figues sous cet arbre, de cet arbre, dit-il. C'est bizarre. C'est-à-dire un caprice de star, c'est un peu comme les stars, comme elles sont capricieuses, des fois elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles font un caprice. Je ne pense pas que c'était... La suite nous dira que ce n'était pas un caprice de star. Et la journée se passe et nous est signalé que les disciples entendirent les paroles prononcées par Jésus. Non seulement ils ne disent rien, mais ils ne sont pas choqués par les paroles prononcées par Jésus. Ils continuent à leur chemin et n'y pensent plus. Mais le lendemain, ils repassent par le même lieu. Et Pierre, qui lui entend tout, rien ne lui échappe à cet homme-là. Il remarque que le figuier que Jésus a maudit est complètement séché, et il en fait la remarque à Jésus, et Jésus de répondre, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Si nous voulons nous arrêter sur ce récit, Jésus n'a pas fait, comme j'ai dit, un caprice en maudissant le figuier, mais a voulu nous donner une leçon de foi à chacun d'entre nous. Une leçon de foi et de confiance au niveau de la prière. Reconnaissons, frères et sœurs, que notre foi, bien souvent, est bien faible. Notre foi est bien faible, mais bien souvent, nous avons le doute qui nous envahit constamment quand nous prions. Nous prions, mais il y a toujours ce doute, et si Dieu ne répondait pas ? Et si ? Et bien souvent, nos prières ne sont pas exaucées, parce qu'il y a toujours ceci. Ce doute qui s'installe dans notre vie de prière. Jésus nous donne un conseil, et ce conseil, c'est avoir la foi. Et ce matin, je nous pose cette question, quel est notre degré de foi quand nous prions ? Foi égale confiance. Répétons-nous nos prières sans trop savoir si elles iront plus haut que le plafond de cette chapelle? Avons-nous le sentiment que Dieu nous écoute vraiment? Parfois, on se pose la question, est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu n'est pas trop occupé pour s'occuper de moi pendant que je prie? Et quand nous prions, ne parlons-nous pas pour rien? Dieu connaissant nos besoins, frères et sœurs, venons à l'essentiel. Jésus dira, dans Matthieu chapitre 6, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Quelque part, il nous dit, allez à l'essentiel directement. Ne mettez pas des formules, n'enrobez pas vos prières. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Venez à l'essentiel. Nous prononçons parfois beaucoup de paroles inutiles. Et frères et sœurs, il y a des paroles de foi que nous devons prononcer dans nos prières que nous ne prononçons pas. Alors ce matin, chassons nos doutes. Quand nous nous mettons à la prière, la Bible nous dira dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Si nous possédons la foi, nous sommes alors agréables à Dieu, nous est-il dit. Car il y a une différence entre croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu, beaucoup de gens croient que Dieu existe, qu'il y a quelque chose là perdu dans l'univers. Donc on croit à une puissance que nous appelons Dieu. Pour nous c'est Dieu, mais enfin certains disent d'autres mots, une puissance, une énergie, etc. Et donc il y a une différence entre croire en Dieu, croire en Dieu qui existe, même les démons croient que Dieu existe, il nous est dit dans la parole de Dieu, et ils tremblent. Que l'être humain s'en fiche carrément de Dieu, malheureusement. Quelque part, les démons sont plus intelligents que les humains, sans vouloir vanter les puissances mauvaises. Donc il y a une différence entre croire en Dieu et avoir la foi en Dieu. Par exemple, je crois qu'il y a un gouvernement en Belgique. Il y en a même 6, hein, diront-ils. On est généreux, on a les moyens. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la foi ou la confiance en ces gouvernements. Nous croyons, oui, il y a des gouvernements, mais de là à mettre notre confiance en eux, il y a une marge. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel, dans le domaine de la prière. Je crois que quand je parle à Dieu, je dois croire qu'il écoute, mais je dois avoir la foi en attendant la réponse que Dieu va me fournir. L'apôtre Jacques nous parlera de la prière de la foi au chapitre 5 de son épître. Bien sûr, il est question ici de la prière accompagnée de l'onction d'huile, je ne viendrai pas là-dessus, mais peu importe la forme de prière, notre prière doit être accompagnée de foi. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Jacques chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il râle ?» Non, qu'il prie. C'est plutôt ça qui nous arrive. Quand nous sortons de la souffrance, on râle. Tout ça est juste, c'est vrai. Mais l'apôtre Jacques nous dit, quand tu es dans la souffrance, mais prie. Le conseil de Jacques, que faire quand nous sommes dans la souffrance? Eh bien, c'est prier. Prenons cette bonne habitude, prions quand nous avons un besoin quelconque et ne murmurons pas comme notre vieille nature nous pousserait à le faire. Et je crois que nous sommes tous pareils, nous nous ressemblons bien tous, nous sommes tous des grands râleurs, surtout les Liégeois. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Va-t-il poursuivre? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, enloignant d'huile, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, nous remarquons, il est bien indiqué que la prière de la foi agira. C'est une condition essentielle pour que notre prière ait de la valeur, pour que notre prière fonctionne quelque part, c'est qu'elle soit accompagnée de foi. Notre foi doit être mise à contribution. Nous ne pouvons pas être exaucés si nous n'avons pas la foi. Rien à faire. C'est une des conditions essentielles. Et peut-être c'est cela qui coince dans nos prières, c'est que quand nous avons tourné le bouton, eh bien nous ne savons pas, nous ne sommes pas sûrs que Dieu va répondre. Si nous n'avons pas la foi, notre prière ne peut pas être exaucée, car elle ne s'élève pas plus haut que le plafond. Cela revient à parler pour ne rien dire. Et le célèbre humoriste Raymond Devos disait dans un de ses sketchs, « Moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache, et je veux en faire profiter les autres. » Et c'est un peu ce qui se passe dans nos prières. Bien souvent, nos prières sans foi ressemblent un peu à cela, prier pour ne rien dire. Vous trouvez pas? Vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est comme ça, on prie et ça passe. Dans le texte de l'évangile de Marc que nous venons de lire, il nous est dit ceci, et je peux dire que cela m'a frappé cette fois en préparant le message. Comme je dis, la parole de Dieu est remarquable, on lit des textes et puis un jour, il y a quelque chose qui vous frappe, qui vous interpelle. Et je désire qu'on réfléchisse à ceci. Tout ce que vous demandez en priant, dira Jésus, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu. Donc, on demande quelque chose et on croit déjà que la réponse est là. C'est un peu comme les enfants, quand ils demandent au Père Noël ou à Saint-Nicolas quelque chose, ils sont convaincus que quand ils viennent avec toute la liste de jouets qu'ils ont vus sur les catalogues, ils sont convaincus que le Père Noël va les apporter. Ils y croient, dur comme fer. Et le Seigneur nous demande de devenir comme des enfants. Croyez que vous l'avez reçu. En fait, à ce moment-là, il n'y a encore rien qui est arrivé dans notre vie. Mais par la foi, je le possède déjà. Et ça, c'est dur. C'est ce qui est remarquable avec la foi. Et il n'est pas inutile de reprendre le texte dans les Hébreux sur la définition de la foi. Texte que nous connaissons par cœur, mais je pose la question, l'appliquons-nous à notre vie? Telle est la question à laquelle nous devons répondre ce matin. Chacun d'entre nous devons répondre à cette question. Et j'avoue que je me suis servi plusieurs fois de ce texte pour parler de la prière, mais qu'il est important de reprendre ce texte et d'avoir une piqûre de rappel. C'est nécessaire pour notre foi, c'est nécessaire pour nous fortifier, pour fortifier notre foi, de la façonner, de la rendre plus forte, car comme je l'ai dit, nous sommes souvent dans le doute. Et nous devons nous remettre en question et de savoir où nous en sommes au sujet de la foi quand nous prions. Texte que nous trouvons dans chapitre 11 des Hébreux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le texte rejoint un peu ce que je disais. La prière de la foi, selon l'expression de l'apôtre Jacques, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on ne voit encore rien. On espère, mais on croit. On croit que Dieu répond. Et cela pour nous, c'est très difficile, frères et sœurs, parce que nous voulons d'abord voir pour croire. Et beaucoup de gens le disent, hein, je verrai un miracle, si je verrai ceci, moi je croirai. Et puis Dieu, on ne le voit pas, Dieu n'existe pas. Si Dieu se révèle à nous, on le verrait physiquement, mais non. L'apôtre Thomas était comme ça. Mais Dieu nous demande de faire vraiment le chemin inverse, de croire et ensuite de voir. Bizarre, hein, mais c'est comme ça dans la foi. Dans un moment dramatique de la vie de Marthe, la sœur de Lazare, face au deuil qu'il a traversé, au moment où Jésus demande d'ouvrir le tombeau, car Jésus savait ce qu'il allait faire, il allait rendre la vie à Lazare. Jésus dit « ôtez la pierre ». Et Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là ». Et Jésus ne se démonte pas, Jésus lui dit « ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit « tu verras la gloire de Dieu et tu croiras ». Non, il a dit « si tu crois ». C'est toute la nuance. Jésus nous dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et nous sommes comme Marthe, nous sommes humains. Nous voulons voir la gloire de Dieu avant de croire. C'est pour cela que ça coince dans nos prières. Je parle pour moi, là. Je vous dis rien. Pas pour vous, parce que je me prêche tout seul ce matin. C'est comme ça que je suis. Non, la procédure avec Dieu, c'est croire et ensuite voir. Frères et sœurs, il est temps que nous appliquions les procédures de Dieu. Vous savez, quand on travaille, maintenant ce n'est plus qu'un souvenir, mais il y a des procédures à suivre. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi quand vous êtes sur votre lieu de travail. Vous avez des procédures à suivre. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a des procédures à suivre afin que nos prières soient exaucé. Pensons au disciple Thomas, comme je le disais, il ne pouvait croire sans voir. Et Jésus, dans sa bonté vis-à-vis de son disciple, exceptionnellement a inversé la procédure. Vous voyez comme Dieu est bon. Il lui a fait voir, et bien sûr, Thomas a cru à ce moment-là. Mais que dira Jésus à son disciple? Heureux ceux qui croiront sans voir. Et c'est notre cas. Dieu nous a laissés ainsi. Croire sans voir. Et nous faisons partie de cela, frères et sœurs. Frères et sœurs, développons notre foi, c'est vital. C'est vital pour notre vie chrétienne, pour notre épanouissement spirituel. Nous avons un exemple de foi qui émerveilla Jésus, celle du centenier romain qui avait son serviteur malade. Et sentant son indignité, cet homme ne pouvait pas recevoir Jésus chez lui. Quelle humilité quand il parle à Jésus. Il dit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Quelle foi ce païen avait. C'est un exemple pour nous chrétiens qui connaissons, qui avons une relation avec Dieu. Quel exemple. Nous qui croyons à la puissance de Dieu. Et Jésus lui répond, puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Il est parti, sans voir, sans savoir même si c'était vrai. Et on lui a confirmé quand il est rentré, mais il est parti, confiant à la parole de Jésus. « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Combien j'ai hâte, frères et sœurs, d'entendre cette parole de Jésus pour ma vie s'adresser à moi. Combien j'ai hâte de voir que cette parole s'adresse à chacun d'entre nous, que s'adresse à cette communauté de blénis, qu'il te soit fait selon ta foi. Écoutons cette voix de Dieu. Avons-nous soif de la puissance de Dieu se manifestant dans nos vies, sur nos églises, pour dire que nos églises sont pauvres. Je ne parle pas financièrement, bien sûr. Beaucoup d'églises vont très bien. J'ai encore vu quelques images cette semaine, elles vont très bien, certaines, et certains pasteurs sont hyper millionnaires. Je ne viendrai pas là-dessus, mais pour vous dire, ce n'est pas de cette richesse-là que Dieu nous demande d'avoir. C'est cette richesse spirituelle, cette profondeur d'âme que nous n'avons plus, que nous avons perdue. Reconnaissons ce matin avec humilité la pauvreté de notre foi. Et crions comme ce père qui était dans la détresse parce que son fils était tourmenté par le démon, cet enfant se jetait même dans le feu, dans l'eau. Et il dit à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours, » dit-il à Jésus. « Aie compassion de nous. » Et Jésus lui dit, « Si tu peux, mais tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. » Et je crois que nous avons perdu cette mesure de dire que tout est possible. Ah, pas des choses farfelues, hein. Ce matin, ne demandez pas de Maserati, parce que vous en avez marre de votre deux chevaux, hein. Non, c'est pas ça que Dieu... Peut-être que Dieu, dans sa bonté, vous accordera une Ferrari, un truc comme ça, hein, si vous, vraiment, vous en avez besoin. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas être quelque chose de farfelu que le Seigneur nous demande, c'est quelque chose dont nous avons besoin réellement dans notre vie. Bien sûr, si vous avez besoin d'une voiture et vous priez à Dieu, « Seigneur, illumine-moi, éclaire-moi », je suis certain que Dieu peut pouvoir... Et j'en suis le témoin, Dieu a pourvu pour une voiture à un moment où la mienne tombait en décomposition. Ça, je peux le dire. Dieu connaît nos besoins. Dieu a pitié de nous, Dieu nous aime. Ça, peut-être que nous l'oublions. On est en train souvent de se révolter, comme il a dit, contre Dieu. Non. Et quand Jésus lui fait cette réflexion que tout est possible à celui qui croit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ce matin, que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous pouvons dire vraiment, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je ne crois pas. Nous ne croyons pas. Mais si je crois, mais non, nous ne croyons pas vraiment la puissance de Dieu. Nous avons perdu ça. Nous sommes dans un monde où tout arrive directement, on pousse sur un bouton et l'information nous est venue. Et on n'a plus la patience de croire. Que Dieu met du temps à nous répondre selon nos besoins, pour fortifier notre foi. Et cet homme, plein de doutes, dans cette situation de détresse, Jésus vient à son secours. Jésus lui dit que la foi mène à tout. La foi mène à la délivrance de son fils. Et dans un cri de désespoir, il s'écrie, « Je crois. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et ce matin, poussons ce cri. Ayons le courage de dire, « Seigneur, je ne crois plus. Je ne crois plus. Si, je crois, mais je ne crois plus. Je crois que tu existes, mais Seigneur, je ne crois plus que tu peux intervenir dans telle ou telle situation. Le doute est en moi, Seigneur, ce matin. Le doute est plus fort que ma foi. » N'ayons pas honte de cela, de dire à Jésus. Jésus nous accorde sa grâce ce matin à celui qui croit et qui met sa foi et sa confiance en lui. N'attendons pas d'être des super-hommes ou des super-femmes. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes des minables, quelque part. Hein. Excusez-moi, mais c'est vrai, nous sommes des minables. Des pauvres pécheurs qui péchons tous les jours et qui avons besoin tous les jours du pardon de Dieu. Tous les jours, nous avons besoin de revenir vers lui. Tellement nous sommes parfois bêtes. Écoutons ce que dit Jacques au sujet du prophète Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, c'est pas possible, c'était un des plus grands prophètes. Mais non, il était de la même nature que nous. Si vous lisez sur l'histoire, vous voyez les faiblesses que cet homme pouvait avoir. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tombât point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisait son fruit. Élie, un homme normal, comme nous, mais un homme rempli de foi. Un homme rempli de foi, mais un homme aussi faillible, comme nous. Voyons brièvement ce qui s'est passé. 1 Roi, chapitre 18, verset 41, quand il a prié pour que la pluie tombe après 3 années et demie de sécheresse, Élie dit à Acab, le roi, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » On n'entendait rien, mais lui, par la foi, il entendait déjà le bruit de la pluie. C'est ça qui est extraordinaire. Entendons-nous le bruit de la réponse dans notre prière ? Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il n'avait pas encore prié. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui monte et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, « Monte. » Et dit à Acab, « Attelle et descends. » afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et il partit pour Jisréel. Élie prie et il envoie son serviteur 7 fois, afin de voir si les nuages arrivent. Et rien jusqu'à la 7e fois. Mais à la 7e fois, le serviteur lui dit, « Il y a un nuage, mais... » comme la paume d'une main, vous imaginez? Allez, si vous voyez ça, vous dites, non. Et la foi d'Élie lui fait comprendre que Dieu est en train d'agir. Et il n'a plus besoin de continuer à prier, il se relève. Dieu répond. Élie parlera au roi de se dépêcher de rentrer, car la pluie va arriver. Quand Élie parle au roi, il ne pleut toujours pas. Mais remarquons la foi de cet homme. Le petit nuage était un signe de la réponse de Dieu. Eh bien, sachons discerner les signes de Dieu. Sachons discerner les signes de Dieu quand nous prions. Sachons discerner les signes de Dieu dans les réponses à nos prières. Soyons sensibles à la voix de Dieu, car il écoute nos prières de foi. Et il y répond. Malheureusement, nous ne sommes pas si sensibles à la voix de Dieu. Nous ne voyons pas les petits nuages comme la paume d'une main qui sont un signe avant-coureur de la réponse de Dieu. Trop souvent, frères et sœurs, à cause de cela, nous passons à côté des bénédictions que Dieu nous envoie. Disons ce matin, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'ai marqué notre incrédulité, mais c'est la mienne d'abord. Que chacun dise, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je suis ton enfant, mais des fois je ne crois plus, je ne crois pas. Je suis découragé, j'en ai marre de prier. Vous n'avez jamais dit ça, vous? Moi, je suis le seul à avoir dit ça. Je suis pire de tout ça. Mais non, je crois qu'on a tous dit ça, je ne prie plus pour ça, c'est fini, ça ne sert à rien. Et puis, il y a une petite voix qui dit, allez, continue. Et puis le petit nuage arrive et la réponse de Dieu arrive. Seigneur, ce matin, augmente notre foi. Telle doit être notre prière, frères et sœurs. Sachons reconnaître les signes que Dieu nous envoie quand nous prions. Et j'en suis certain, nous aurons de nombreuses réponses à nos prières. Ce matin, exerçons notre foi. Changeons d'attitude dans notre manière de penser, dans notre manière de voir, dans notre manière de prier. Il n'y a pas besoin de raconter toute votre vie au Seigneur, il la connaît. Il connaît votre vie d'avant,
votre vie actuelle et de votre vie d'après. Donc il n'y a pas besoin. Criez comme cet homme, Seigneur, guéris mon fils, mais augmente ma foi. Ça suffit, pas plus. Et je crois que Dieu peut intervenir dans nos vies si nous le croyons vraiment. Prions. Seigneur notre Dieu, augmente ma foi. Augmente la foi de mes frères et sœurs. Seigneur, bien souvent nous disons, oh, nous ne voyons pas de réponse à nos prières. Seigneur, pardon de douter. Pardon de dire des choses qui ne sont pas exactes, Seigneur, mais que nous puissions vraiment revenir à l'essentiel. Cette foi qui nous fait tant défaut. Seigneur, visite ton Église. Visite cette communauté de blémis. Oui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais nous voulons croire d'abord avant de voir ta gloire. Amen.